Chapitre 32. L'époque contemporaine. L'homme est condamné à être libre.
Le réveil indiquait 23h55. Hilde resta encore un moment éveillée à fixer le plafond. Elle essaya de laisser flotter ses pensées. Et à chaque fois qu'elle s'arrêtait au bout d'une chaîne d'associations d'idées, elle se demandait pourquoi elle n'arrivait pas à continuer. Ne serait-elle pas par hasard en train de refouler quelque chose? Si seulement elle réussissait à ne rien censurer, elle pourrait se mettre à rêver, les yeux grands ouverts. Rien qu'à y penser, elle en avait des frissons. Plus elle se décontractait et laissait flotter son esprit, plus elle s'imaginait au bord du lac, dans le chalet du major, avec la forêt tout autour. Qu'est-ce qu'Alberto était en train de mijoter? Bien sûr, c'était son père qui avait décrété qu'Alberto allait mijoter quelque chose. Savait-il ce que préparait Alberto? Après tout, qui sait s'il ne rendait pas un peu de liberté à ses personnages, dans l'espoir de se laisser surprendre à son tour? Il ne restait plus tellement de pages à lire. Tiens, et si elle jetait un coup d'œil sur la dernière page? Non, ce serait de la triche. Mais ce n'était pas la seule raison. Elle n'était finalement pas si sûre que le dénouement fût déjà décidé. C'était une étrange pensée, en vérité. Le classeur était ici. Il était hors de question que son père pût y changer quoi que ce soit. À moins qu'Alberto ne réussisse à prendre une initiative et à renverser la situation. Hilde allait pour sa part se charger de lui préparer quelques surprises aussi. Il n'exerçait aucun contrôle sur elle. Mais avait-elle le plein contrôle d'elle-même? Qu'est-ce que c'était, la conscience? Ne touchait-elle pas là à un des plus grands mystères de l'univers? Et la mémoire, qu'est-ce qui faisait qu'on se rappelait tout ce qu'on avait vu ou vécu? Par quel étrange mécanisme laissait-on chaque nuit défiler son cinéma personnel dans ses rêves? Plongée dans ses pensées, elle s'amusait à ouvrir et fermer les yeux. Puis, elle finit par oublier de les rouvrir. Elle s'était endormie. Quand elle fut réveillée par les cris des mouettes affamées, il était très exactement 6h66. Voilà qui était un chiffre plutôt bizarre. Hilde se leva et alla comme d'habitude à la fenêtre regarder la baie. C'était devenu un rituel, été comme hiver. Elle était là, à rêvasser, lorsqu'elle eut soudain l'impression que son cerveau se trouvait soudain tout éclaboussé de couleurs. Son rêve lui revint alors en mémoire. Mais c'était plus qu'un simple rêve. Elle pouvait encore nettement en percevoir les couleurs et les contours. Elle avait rêvé que son père rentrait du Liban, et tout son rêve était une prolongation du rêve de Sophie lorsqu'elle avait retrouvé sa croix en or sur la jetée. Hilde était assise sur le bord de la jetée, comme dans le rêve de Sophie. Et elle avait entendu une toute petite voix lui murmurer « Hilde, c'est moi, Sophie !» Hilde s'était bien gardée de bouger d'un pouce, dans l'espoir de localiser d'où venait cette voix. Ça reprit sous forme d'un faible gémissement, comme si c'était un insecte qui lui parlait. « Tu m'entends, Hilde? Ou est-ce que tu es sourde et aveugle ?» L'instant d'après, son père, en uniforme de l'ONU, apparaissait dans le jardin. « Ma petite Hilde chérie !» s'écriait-il. Hilde courait se jeter dans ses bras, et c'était la fin du rêve. Des vers du poète norvégien Arnulf Øverland lui revinrent tout à coup en mémoire. « Je fis une nuit un rêve étrange. Une voix inconnue me parlait, lointaine comme une source souterraine. Je me levai et demandai « Que me veux-tu ?» Elle était encore à la fenêtre quand sa mère entra dans la chambre. « Quoi ? Tu es déjà réveillée ?
Ça, je n'en suis pas si sûre. Je rentrerai vers 4h, comme d'habitude.
D'accord.
Bon, j'espère que tu profiteras bien de ta journée de vacances, Hilde.
Merci. Bon courage. »
Dès qu'elle entendit la porte d'entrée se refermer, elle sauta dans son lit et rouvrit le grand classeur.
Je vais plonger dans l'inconscient du major et y resterai jusqu'à notre prochaine rencontre.
C'était bien là, elle se remit à lire, tout en sentant avec son index droit qu'il ne lui restait que peu de pages à découvrir.
Quand Sophie sortit du chalet du major, elle aperçut bien encore quelques personnages de Walt Disney au bord du lac, mais ils semblaient se dissoudre au fur et à mesure qu'elle approchait. Quand elle atteignit le bateau, ils avaient tous disparu. Pendant toute la traversée, et quand elle tira la barque parmi les roseaux, elle s'appliqua à faire des grimaces et de grands moulinets avec les bras afin d'attirer l'attention du major et de permettre à Alberto de rester discrètement au chalet. En courant sur le sentier du retour, elle fit quelques cabrioles audacieuses, puis essaya de marcher comme un automate. Pour varier un peu, elle se mit aussi à chanter à tue-tête. À un moment, elle marqua une pause et essaya de deviner ce que pouvait bien manigancer Alberto. Mais elle eut au fait de se ressaisir et grimpa dans un arbre, tellement elle avait mauvaise conscience. Sophie grimpa aussi haut qu'elle put. Mais une fois parvenue presque au sommet, elle dut s'avouer qu'elle était bien incapable de redescendre. Elle allait encore essayer, mais en attendant, il fallait bien trouver quelque chose. Sinon, le major risquait de s'ennuyer et de tourner son regard du côté d'Alberto pour le surveiller. Sophie fit semblant de battre des ailes. Elle tenta même de lancer de vaillants « Cocorico !» comme si elle était un coq, et finit par pousser des « Tralala et tout !» à la manière des Bavarois. C'était la première fois de sa vie qu'elle vocalisait ainsi, et vu le cadre, elle n'était pas mécontente du résultat. Elle voulut descendre par une autre voie, mais elle était bel et bien coincée. C'est alors qu'un gros jar gris vint se poser sur une des branches auxquelles s'accrochait Sophie. Après le défilé des personnages de Walt Disney, elle ne fut pas étonnée le moins du monde d'entendre le jar se mettre à parler.
« Je m'appelle Martin, » dit le jar. « D'habitude, je suis un jar apprivoisé, mais je viens tout spécialement pour l'occasion avec les oies sauvages du Liban. On dirait que tu as besoin d'un coup de main pour redescendre de l'arbre. »«
Mais tu es beaucoup trop petit pour m'aider, » répondit Sophie.
« Conclusion bien hâtive, ma petite dame, c'est toi qui es trop grande. »«
Ça revient au même. »«
Je te signale, à titre d'information, que j'ai transporté un petit garçon de ton âge qui habitait dans une ferme à travers toute la Suède. Il s'appelait Nils Holgersson. »«
Moi, j'ai 15 ans. »«
Et Nils avait 14 ans. Une année de plus ou de moins, ça n'a pas grande importance pour le transport. »«
Comment as-tu réussi à le soulever ?»
Il a reçu un petit coup de massue sur la tête qui l'a fait s'évanouir. Et quand il a repris connaissance, il n'était pas plus grand qu'un pouce.
Tu n'as qu'à me donner un petit coup à moi aussi, car je ne vais tout de même pas rester indéfiniment dans cet arbre. De plus, j'ai organisé une garden party philosophique samedi prochain.
Tiens, ça m'intéresse ce que tu viens de dire. Alors je suppose que ceci est un livre philosophique ? Quand j'ai survolé la Suède avec Nils Holgersson, on a atterri un jour à Marbacka, dans le Värmland. Nils a fait là-bas la rencontre d'une vieille femme qui, toute sa vie, avait rêvé d'écrire un livre sur la Suède à l'intention des écoliers. Il fallait que ce soit un livre à la fois instructif et véridique. En écoutant Nils lui raconter ses aventures, elle a décidé de rédiger un livre sur son voyage sur le dos du jar.
C'était pas mal comme idée.
Je reconnais qu'il y avait une part d'ironie là-dedans, puisqu'en réalité, nous étions déjà dans ce livre.
Sophie sentit qu'on lui donnait une petite tape sur la joue, et elle rapetissa instantanément. L'arbre devint une immense forêt à lui tout seul, et le jar avait la taille d'un cheval.
« Allez, viens, tu peux monter à présent, » dit le jar.
Sophie fit quelques pas sur la branche et grimpa sur le dos du jar. Ses plumes étaient douces. Mais comme elle était toute petite, elle piquait un peu au lieu de la chatouiller. À peine fut-elle confortablement installée que le jar prit son envol. Il vola très haut au-dessus des arbres. Sophie se pencha pour apercevoir le lac et le chalet. Là se trouvait Alberto en train de mettre la dernière touche à son plan top secret.
« On va juste faire une petite balade !» annonça le jar tout en battant des ailes.
Et il se posa au pied de l'arbre sur lequel, tout à l'heure, Sophie avait voulu grimper. Une fois que ses pattes touchèrent le sol, il put laisser Sophie glisser le long de son dos.
Celle-ci fit quelques galipettes dans l'herbe avant de se relever. À sa grande surprise, elle avait retrouvé sa taille normale. Le jar tourna plusieurs fois autour d'elle.
« Merci pour ton aide !» lui dit Sophie. « Oh, ce n'était pas bien difficile. Tu m'as dit que c'était un livre de philosophie ?»«
Non, je crois que c'est toi qui as dit ça. »«
De toute façon, ça revient au même. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais bien accompagné à travers toute l'histoire de la philosophie comme j'ai traversé la Suède avec Nils Holgersson. Nous aurions survolé Milet, Athènes, Jérusalem, Alexandrie, Rome, Florence, Londres, Paris, Iéna, Heidelberg, Berlin, Copenhague. Merci, ça me suffit comme ça. Cela dit, même pour un jar très ironique, cela n'aurait pas été une mince affaire que de traverser les siècles. C'est quand même plus facile de survoler les provinces suédoises.
Après avoir prononcé ces mots, il prit son élan et s'envola. Sophie se sentit complètement épuisée, mais en regagnant sa cabane, elle trouva qu'Alberto avait toutes les raisons d'être satisfait de sa dernière manœuvre de diversion. Comment le major aurait-il eu une minute à lui pour penser à Alberto? Ou alors, il était complètement schizophrène. Sophie parvint à rentrer à la maison juste avant que sa mère ne revienne du travail. Cela lui évita d'avoir à expliquer comment un jar apprivoisé l'avait aidé à descendre d'un arbre. Après le repas, elles commencèrent les préparatifs pour la fête. Elles allèrent chercher au grenier une longue planche de 3 ou 4 mètres de long et la portèrent dans le jardin. Puis, il fallut remonter chercher les tréteaux pour soutenir la planche. Elles dressèrent une longue table sous les arbres fruitiers. La dernière fois qu'on avait dû sortir la grande planche, cela avait été pour les 10 ans de mariage de ses parents. Sophie n'avait alors que 8 ans, mais elle se rappelait bien cette grande réception où toute la famille et les amis, petits et grands, s'étaient trouvés rassemblés. La météo annonçait une belle journée. Il n'était pas tombé une seule goutte de pluie depuis le violent orage qui s'était abattu la veille de l'anniversaire de Sophie. Mais elles attendraient quand même le samedi matin pour finir de décorer la table. Sa mère trouvait qu'avoir réussi à installer la table dans le jardin, cela suffisait pour la journée. Plus tard dans la soirée, elles firent, avec 2 pâtes différentes, des petits pains au lait et un pain blanc en forme de tresse. Il y aurait aussi du poulet et de la salade, sans oublier la limonade. S'il y avait bien une chose dont Sophie avait peur, c'était qu'un des garçons de sa classe ne vienne avec de la bière. Elle ne voulait surtout pas d'histoire. Au moment où Sophie allait se coucher, sa mère lui redemanda si Alberto serait bien de la fête.
« Mais bien sûr qu'il vient. Il m'a même promis de réaliser devant nous un tour de prestidigitation philosophique. »«
De prestidigitation philosophique ? En quoi ça va consister ?»«
Eh bien, s'il avait été un prestidigitateur normal, il se serait amusé à faire sortir un lapin blanc de son chapeau haute forme. »«
Tu ne vas pas recommencer !»
Mais, puisque c'est un philosophe, il réalisera un tour de force en philosophie. C'est bien une fête philosophique, non?
Tu as la langue toujours aussi bien pendue à ce que je vois.
Et toi, là-dedans, est-ce que tu as pensé à ta contribution personnelle?
Bien sûr, Sophie, j'ai ma petite idée.
Ce sera un discours?
Ce n'est pas la peine d'insister, je ne t'en dirai pas plus.
Allez, bonne nuit.